It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay, you know, it's okay.
Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight.
Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's an all that Peter is gold. After story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on,
get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up.
Vous l'aurez compris à l'écoute de ce classique militant du regretté Bob Marley, nous allons cette semaine évoquer l'engagement citoyen à travers les musiques de la diaspora africaine dans le monde. Pour cela, nous avons fait appel à l'esprit frondeur d'un chercheur dont le dernier ouvrage épouse avec force la tonalité hebdomadaire de notre émission. Jérémy Croubro-Denini, soyez le bienvenu.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes avec nous en duplex d'Orléans grâce aux moyens techniques du réseau France Bleu et vous êtes l'auteur d'un livre collectif intitulé « Musique noire, l'histoire d'une résistance sonore » paru aux éditions du Camion Blanc, dont le but est d'interroger le lecteur et a fortiori aujourd'hui l'auditeur sur la dimension contestataire des musiques afro-planétaires. Comment est née l'idée de ce travail imposant de réhabilitation patrimoniale? Je crois qu'il s'agit d'une réponse à un musicologue britannique qui vous a poussé finalement à mettre les points sur les i.
Oui, en fait, l'idée, pour être précis, a germé dans mon esprit en 2010. En fait, en 2010, j'avais été invité à un colloque intitulé « Peut-on parler de musique noire, mais peut-on ne pas en parler ?» C'était un colloque organisé à Bordeaux par un universitaire de l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales. Son nom était Emmanuel Parent, me semble-t-il. Donc, ils avaient fait ce colloque suite à la lettre de Philippe Tagg, un musicologue qui avait effectivement écrit une lettre intitulée « Lettre ouverte sur les musiques noires, afro-américaines et européennes ». Malheureusement, je n'ai pas pu participer à ce colloque, mais j'ai tout de même voulu participer à cet échange intellectuel. Donc j'avais écrit un article qui s'intitulait « Musique noire, un pléonasme » que j'avais publié sur le site de François Durper, la revue des diasporas noires. Et puis je ne me suis pas en fait contenté de cet article, j'ai continué à cogiter sur cette lettre assez ambiguë. Et j'ai voulu y répondre de manière plus ample à travers cet ouvrage. Donc
suite à cette lettre ouverte de Philippe Tagg, que vous jugiez erronée, vous avez réuni une vingtaine de personnalités, historiens, sociologues, universitaires, artistes, pour décrire dans le détail la place des musiques noires dans le monde. Et dès le départ, vous vous intéressez à l'expression « musique noire » qui peut susciter la controverse si l'on n'explique pas la dimension revendicatrice d'une telle définition. Que faut-il comprendre par « musique noire » ?
En fait, Philippe Tagg, lui, dans sa lettre, il faut comprendre bien son propos, c'était de déconstruire cette appellation « musique noire » pour faire court. Il a tenté d'ôter les caractéristiques musicales noires pour les attribuer aux musiques blanches européennes. Donc pour Philippe Tagg, par exemple, le jazz n'est pas forcément une musique noire, elle est autant noire que blanche. Alors il avançait tout un panel d'explications, hein, plus ou moins alambiquées, et j'ai voulu, comme vous l'avez dit, remettre les points sur les i, en expliquant simplement, le plus simplement possible, que les musiques noires, cette appellation a tout son sens, puisque les musiques noires sont à l'origine les musiques nées aux États-Unis dans les communautés noires, créées par les Noirs, ces descendants d'Africains déportés, et possédant des caractéristiques comme l'improvisation, par exemple, ou l'appel-réponse. Et puis ensuite, par extension, les musiques noires sont sorties du continent des États-Unis Et on peut parler maintenant de musique noire, toutes les musiques nées dans la diaspora noire, c'est-à-dire les musiques nées en Amérique latine, dans la Caraïbe aussi.
Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que, d'une certaine manière, Philippe Tagg a aussi raison ? Dans le blues, dans le gospel, dans la soul, il y a à la fois les harmonies européennes et les rythmes africains.
On peut effectivement retrouver, bien sûr, ces musiques sont hybrides, syncrétiques, mélangées, métisses, donc il y a des éléments qui viennent de toutes parts. Pour autant, dire que le blues est une musique blanche ou que la musique de Michael Jackson est blanche parce que Michael Jackson a la peau claire, c'est ce que Philip Tagg dit entre autres dans sa lettre, ou une autre aberration, il dit par exemple que le jazz depuis une cinquantaine d'années est joué de plus en plus par les blancs et lorsqu'on va dans un concert de jazz, l'auditoire est blanc. Alors dire que pour ces raisons-là, le jazz n'est plus vraiment une musique noire, bon... C'est pas digne d'un musicologue.
Ça veut dire que son discours est réducteur ?
Très réducteur, oui, à mon avis.
En lisant votre ouvrage, on découvre que derrière des notes, des rythmes et des mots, il y a souvent un message, des destinées et un appel à résister. Est-ce que le reggae est le seul symbole universel de cette fronde sociale du peuple noir à l'échelle planétaire ?
Non, le reggae n'est pas le seul. Hein. Comme je le dis, mon livre intitulé « Musique noire au pluriel, l'histoire d'une résistance sonore », ce qui sous-entend que dans toutes les musiques noires, quelles qu'elles soient, que ce soit le reggae, où explicitement c'est une musique rebelle, une musique qui appelle à la résistance, mais tous les autres styles, on peut y retrouver ces éléments de la résistance, que ce soit le blues, ou le jazz, le gospel aux États-Unis, que ce soit la rumba, que ce soit la samba au Brésil, que ce soit le reggaeton en Amérique latine, dans tous ces genres musicaux, il y a cet élément de résistance, parce que tous ces genres musicaux sont nés dans la diaspora noire qui ont subi l'esclavage et l'expérience de l'esclavage, traumatisante de l'esclavage. La résistance est intrinsèque à tous ces genres musicaux, qu'elles soient explicites ou implicites. Parce que qu'est-ce que c'est le blues ? Le blues, pour faire court, c'est simplement crier cette douleur de l'esclavage. Qu'est-ce que c'est le reggae ? Prenons Get Up Stand Up que vous venez de jouer, bah c'est ça, Get Up Stand Up, c'est vraiment la résistance. Sans esclavage, jamais il y aurait eu de morceau comme Get Up Stand Up.
Jérémy Kouburo-Danini, je vous propose d'écouter à présent un artiste de Trinidad et Tobago, il s'appelle Mighty Sparrow. Voici un titre de 1962, The Slave, l'esclave. On l'écoute et on en parle juste après.
Pas de problème.
I'm a slave from a land so far. I was caught and I was brought here from Africa. I'm a slave from a land so far. I was caught and I was brought here from Africa. Well, it was licks like fire from the white slave master. Every day I dung on my knees. Weeks and weeks before we crossed the seas to reach in the West Indies. And then they made me work. Oh yes, I work.
A good Lord, no pay.
I toil and toil and toil and toil so hard
each day.
I'm done.
The The Slave, Mighty Sparrow en 1962, un extrait du coffret Slavery in America concocté par Bruno Blum, grand spécialiste des musiques caraïbes. On lui doit d'ailleurs de nombreuses anthologies toutes parues chez Frémo et Associés. Jérémy Croubeau-Danini, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'importance de Mighty Sparrow dans l'épopée des musiques noires ?
Mighty Sparrow, son nom est associé et restera jamais associé au Calypso, qui caractérise très bien la Trinidad, originaire de Trinidad. Donc Mighty Sparrow, c'est le roi du Calypso, c'est avec ses comparses comme Lord Kitchener ou Harry Belafonte, ce sont eux qui ont permis de démocratiser, de mettre en lumière le Calypso. Donc Mighty Sparrow, c'est une figure emblématique de la musique des Caraïbes et de Trinidad en particulier. Toutes ces personnes, tous ces artistes sont marqués et ont été marqués à jamais par l'esclavage, même si peut-être eux-mêmes n'ont pas vécu l'esclavage, puisque Mighty Sparrow est né en 1935, me semble-t-il. Donc il n'est pas né à l'époque de l'esclavage, mais bon, ses grands-parents ont vécu l'esclavage et ils sont marqués à jamais par cette tragédie.
Anthony Joseph, l'un des poètes et défenseurs de la culture trinidadienne, dit que le soca est un écho de l'afrobeat du Nigeria. Est-ce que c'est possible ?
Oui, peut-être, oui, c'est possible. Vous savez, toutes ces musiques, ce sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, des musiques hybrides, mélangées. Il y a eu aussi beaucoup de phénomènes de migration, d'emprunt à gauche, à droite. Et c'est vrai que si on écoute de la soca, on peut peut-être remarquer que la soca s'est accaparée quelques éléments de l'afrobeat. Donc, c'est possible. Après, je ne suis pas un spécialiste ni de la soca, ni de l'afrobeat, mais c'est possible.
Il y a quelques mois, Anthony Joseph s'est rapproché d'une personnalité antillaise, le percussionniste Roger Raspail, que nous avons d'ailleurs accueilli dans cette émission, et qui porte en lui la tradition du guoka de Guadeloupe, largement traitée dans votre livre. Est-ce que le tambour ka doit être perçu comme l'instrument d'une révolte dans l'histoire de la Guadeloupe ?
Pas seulement de la Guadeloupe, mais dans l'histoire de toutes les diasporas noires. Le tambour, c'est vraiment l'instrument subversif par excellence, symbole d'une révolte, à la fois physique, puisque le tambour permettait entre autres de diffuser des messages, par exemple pour organiser des révoltes, des émeutes contre les maîtres blancs. Et puis le tambour symbolise parfaitement l'Afrique. Donc pas seulement pour la Guadeloupe, mais pour toute la diaspora noire.
Est-ce qu'on peut dire que le guoka dépasse les limites du genre musical et est-ce qu'on doit le considérer comme un vocabulaire ?
Oui, le guoka dépasse la musique. Le guoka, c'est également le chant, mais c'est avant tout un mode de vie, un mode de pensée. Le guoka, ça fait partie de l'ADN de la Guadeloupe. Et je m'en suis vraiment rendu compte lorsque j'ai vécu aux Antilles. J'ai vraiment compris l'importance de ces musiques, que ce soit le belé en Martinique ou le guoka en Guadeloupe. J'ai ressenti l'importance de ces traditions pour ces peuples-là à travers la vibration des cérémonies. C'est vraiment là-bas que j'ai compris que ça faisait partie de leur ADN, comme je l'ai dit.
Voici un écho de cet idiome sonore qui accompagne idéalement les chapitres 11 et 12 de votre ouvrage, Jérémy Croubeau-Danini. Voici Papa Yaya, un extrait du dernier album de Roger Raspail intitulé « Dalva ». Yaya, un exemple des rythmes guoka par l'un des fervents défenseurs, Roger Raspail. Jérémy Croubeau-Danini, je ne l'ai pas encore dit, vous êtes chercheur au Centre d'études politiques et contemporaines, le CEPOC, et auteur de nombreux ouvrages sur les musiques populaires jamaïcaines notamment. Est-ce que cela fait de vous un partisan ?
Je ne sais pas si c'est le fait que j'appartienne à ce laboratoire de recherche qui fait de moi un partisan, mais bon, je pense que tout le monde est plus ou moins partisan à partir du moment où on défend des idées. Tout le monde a des idées de toute façon, donc forcément on sera plus ou moins partisan.
Alors est-ce que votre dernier livre, L'histoire d'une résistance sonore, est un ouvrage partisan ?
Oui, c'est un ouvrage partisan, tout comme l'est la lettre de Philippe Tagg. Philippe Tagg, dans sa lettre, vous savez, c'est une lettre qui est assez longue, hein, moins plus 20 ou 30 pages, donc, mais en substance, ce qu'il dit, c'est que les musiques noires, donc en parlant des musiques noires nées aux États-Unis, hein, comme le blues, le jazz ou le gospel, par exemple, il dit que ces musiques sont des musiques hybrides, donc nées sur le sol états-unien, d'un mélange de caractéristiques musicales à la fois d'origine africaine mais également européenne, donc que ces musiques, c'est idiot de les appeler musiques noires, puisqu'elles sont autant noires que blanches. Et ensuite, il essaye un peu de déconstruire ces musiques, d'attribuer des caractéristiques musicales souvent étiquetées noires, comme l'improvisation par exemple, de les attribuer à des musiques blanches, puisqu'il dit qu'on retrouve également ces caractéristiques musicales dans les musiques européennes. Donc, dit-il, pourquoi les appellerait-on musique noire, puisqu'elles sont également blanches? Il dit également, comme je vous disais tout à l'heure, que le jazz est écouté principalement, selon lui, donc, par un public blanc depuis une quarantaine d'années, qu'il n'y a quasiment plus de musiciens de jazz noirs, que ce sont les blancs qui ont repris cette musique. Est-ce qu'on peut encore parler de musique noire? Donc voilà un peu ses arguments. Il questionne même la pigmentation de Michael Jackson en disant que peut-on parler d'un musicien noir alors qu'il a la peau blanche? Voilà un peu les arguments qu'il met en avant. Donc c'est vrai que moi, en lisant cette lettre, j'ai fait des bonds, j'ai sauté au plafond. Et il me devait, en tant que chercheur partisan, comme vous l'avez dit, bah de répondre aussi intellectuellement à cette lettre-là. Donc par le biais d'un article en premier, et puis de cet ouvrage.
À aucun moment vous vous dites qu'il a peut-être raison, qu'il y a des choses qu'il dit qui sont peut-être vraies aujourd'hui, peut-être qu'en effet, majoritairement, c'est plutôt un public blanc qui vient assister à des concerts de jazz aujourd'hui, que majoritairement, c'est peut-être un public blanc qui écoute les disques de Motown, tels que le voulait Berry Gordy au tout départ.
Il n'a peut-être pas tort, mais le fait que des blancs écoutent du jazz, ça ne transforme pas la couleur de la musique, ça restera une musique noire. Si on prend le cas du reggae, par exemple, le reggae est né en Jamaïque, dans les ghettos jamaïcains, ce sont les Jamaïcains noirs qui ont créé le reggae. Le reggae est une musique jamaïcaine. Après, je me rappelle, dans les années 90, il y avait pas mal de groupes de reggae ici en France, des groupes blancs avec des blancs ayant des dreadlocks, etc. C'était super. Mais pour autant, ça n'a pas transformé cette musique en une musique, on ne va pas dire que le reggae est une musique française ou une musique blanche, parce qu'il y a plein de groupes de reggae blancs. Je veux dire, ça n'a aucun sens. En fait, on parle de musique noire, comme je l'ai dit, pour parler des musiques nées dans la diaspora noire, ayant subi le traumatisme de l'esclavage. Et c'est en ce sens, c'est pour rappeler, en parlant de musique noire, on rappelle cette histoire de l'esclavage. Sans esclavage, il n'y aurait jamais eu ces musiques. Ces musiques sont toutes nées dans la douleur. Sans douleur, sans souffrance, pas de musique noire, pas de blues, pas de reggae, pas de gospel, pas de reggaeton, pas de rap. Le rap aux États-Unis se trouve au bout de toute cette histoire musicale. On a eu les walk songs, on a eu le blues, puis le jazz, puis le rhythm and blues, puis le rock, et le rap, c'est le dernier chaînon. Et puis ça rejoint aussi ce que je disais en début d'émission, qu'il y a des musiques noires, pas une seule musique noire, des musiques noires nées sur le sol nord-américain, des musiques noires nées en Amérique latine, en Amérique du Sud, des musiques noires nées dans la Caraïbe, en Jamaïque, aux Antilles francophones, hispanophones, anglophones. Donc il y a des musiques noires partout où il y a eu la traite négrière et des diasporas noires.
Donc si on utilise aujourd'hui le terme musique noire, c'est davantage en réaction à la colonisation et au fait que les Blancs ont choisi de nommer ces musiques, de leur donner une appellation, les musiques noires, les musiques des Noirs en quelque sorte.
À la base, de toute façon, c'était dans ce sens-là. Lorsqu'ils ont appelé la musique noire, ça avait une connotation péjorative. Ils parlaient de musique noire pour parler, bon, ça c'est la musique des sous-peuples, la musique des noirs, des sauvages. Et puis, il s'est avéré que ces musiques ont fait un pied de nez à l'histoire et sont devenues le patrimoine mondial de la musique. Elles ont surclassé toutes les musiques et c'est peut-être ce qui embête Philippe Tagg, en fait, après tout.
Votre livre collectif s'achève avec un texte en anglais de Marco Robinson, grand spécialiste de l'histoire africaine-américaine, dans lequel il évoque la résistance culturelle de la communauté noire aux États-Unis à travers le portrait du saxophoniste Floyd Newman. Qui est ce monsieur Floyd Newman ?
Floyd Newman, c'est un musicien anonyme, comme il en existe des tas aux États-Unis et partout dans le monde. Floyd Newman est né dans le Tennessee, à Memphis. Et il a joué avec des artistes comme Sam Cooke, B.B. King, Jerry Lee Lewis, Isaac Hayes. Il a également été musicien de studio de Stax Records. Et il m'apparaît intéressant de conclure cet ouvrage avec l'histoire d'un musicien anonyme, comme il en existe des tas. Et finalement, ces musiciens font énormément à leur échelle et humblement pour le développement des musiques noires.
Pourquoi vous avez choisi de refermer votre ouvrage avec ce texte en version originale ?
Ben parce que déjà par rapport à l'auteur, c'est vrai que donc, dans cet ouvrage, il y a une vingtaine de collaborateurs, tous francophones, et j'ai trouvé que c'était intéressant. C'était vraiment symbolique de terminer avec un auteur anglophone, qui plus est un noir américain, donc spécialiste du jazz, originaire du sud des États-Unis. Au début, je m'étais dit que j'allais traduire cet article en français. Et puis finalement, je me suis dit que l'anglais aussi, pourquoi pas conserver l'anglais, même si c'est un ouvrage qui s'adresse avant tout aux lecteurs francophones, c'est un ouvrage universitaire. L'anglais, c'est la langue de la recherche. Donc inclure un article en anglais, pourquoi pas, puisque c'est un ouvrage tout de même scientifique, même si on a quelques auteurs artistes. Et puis aussi l'anglais, est-ce que ce n'est pas aussi la langue des musiques noires, puisque on a commencé à appeler les musiques noires les musiques nées sur le sol aux États-Unis. Et donc là-bas, là, tout le monde sait que la langue est l'anglais. Donc pourquoi pas terminer avec un texte en anglais aussi, qui est la langue des musiques noires.
L'autre grande contribution à votre ouvrage, c'est le poème de Daniel Waro. Rappelons déjà qui est Daniel Waro.
Daniel Waro, c'est un résistant, d'où sa place aussi dans cet ouvrage. Cet ouvrage donc, qui s'appelle « L'histoire d'une résistance sonore ». Daniel Waro, c'est un résistant de La Réunion, c'est un insoumis. C'est quelqu'un qui, depuis l'engagement, que ce soit social ou politique, qui est marqué par cet engagement depuis tout jeune. Et c'est un grand défenseur du Maloya, le Maloya qui est le blues de l'océan Indien, le blues de La Réunion.
Est-ce que le Maloya, comme le Gwoka, la Soca ou le blues, a permis l'émancipation des esprits après des siècles d'esclavage ?
Oui, bien sûr, toutes ces musiques, le Maloya, le Gwoka, le Soca, le blues, toutes ces musiques ont permis de libérer les esprits de ces peuples asservis par des siècles d'oppression, de décomplexer les esprits. Ces musiques ont vraiment joué un rôle d'exutoire et de facteur d'émancipation.
Daniel Waro revient d'ailleurs avec un nouvel album intitulé « Mon Mont ». Voici un extrait.
Bon Dieu, oui, il a fait l'amour pour moi, dit mon fond de cœur. Bon Dieu, belle, il a fait l'amour pour moi, dit mon fond de cœur. Bon gars, tombe pas toujours à mon moment. Il a gommé que la guerre. Bon gars, tombe pas toujours à mon moment. Il a gommé que la guerre.
Bon gars, tombe pas toujours à mon moment.
Toujours au moment lila comme la guerre. Lundi, jeudi, mardi, mercredi,
samedi, dimanche, ou vendredi.
Ça pour ma dina ou nena écrit.
Ce petit chanta ou ce petit grand merci. A tombé pour où?
Bon Dieu, vina y'a quel canabalier. Maman, n'a y prié l'yom nama chouven. Par mes chouven. Canabalier.
Panga Jessica, extrait de Momon, le nouvel album de Daniel Waro. Jérémy Croubeau, Danini, merci d'avoir participé à cette émission qui rejoint idéalement vos préoccupations culturelles et musicales. Merci à vous.
Mais écoutez, merci à vous, hein, merci de m'avoir reçu. On aurait pu encore en parler des heures.
Hein. Oui, parce que c'est un sujet en effet qui mérite vraiment des discussions longues, profondes, intenses. Je signale cependant que votre livre a reçu le coup de cœur de l'Académie Charles Cros, qui est un gage de qualité tout de même de votre propos.
Bah écoutez, oui, j'ai été très honoré de recevoir ce coup de cœur d'une académie aussi prestigieuse que Charles Cros. Donc nous sommes tous super ravis, quoi, tout moi et tous les contributeurs de cet ouvrage.
Félicitations à vous et merci d'avoir donc participé à cette émission.
Ben merci beaucoup et puis à longue vie à cette émission.
Merci. Merci à France Bleu Orléans, représenté par Abdel Basset Alkama, pour avoir permis ce duplex dans des conditions optimales. La semaine prochaine, nous continuerons d'évoquer l'esprit de résistance des musiques noires puisque nous serons à la Philharmonie de Paris en compagnie de Sébastien Carayol, le commissaire de l'exposition Jamaïca Jamaïca qui ouvre ses portes le 4 avril prochain et jusqu'au 13 août. J'imagine que vous irez faire un tour, Jérémy Croubeau Danini.
Oui, oui, de toute façon, j'ai également travaillé en collaboration avec Sébastien Carayol et je profite de l'antenne pour annoncer que nous allons organiser une table ronde à la Philharmonie le 22 avril à 19h et il y aura Sébastien, moi, Hélène Lee et puis d'autres intervenants autour de la musique jamaïcaine.
Et je crois même que le pianiste jamaïcain Monty Alexander sera de la fête. Absolument.
Tout à fait, il sera de la fête.
Parfait, merci beaucoup.
Merci à vous.
L'émission du jour était réalisée par la rebelle Nathalie Laporte. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours. Dans 30 secondes, le journal.